Vous écoutez, on lit pour vous.
Cultiver sa patience en vacances, un texte de Jessica Nadeau, paru le 14 août 2025 dans Le Devoir. Si la chaleur de l'été peut exacerber l'intolérance, les vacances, elles riment généralement avec patience, à condition de se donner le droit de les savourer sans se presser. Nous sommes tellement habitués à carburer à la vitesse, à la performance, aux distractions et à l'impatience que lorsqu'on tombe en vacances, plusieurs ont des symptômes de sevrage. Les gens luttent en se disant « Où sont les stimulations ? Je ne veux pas de cette lenteur. » Mais après la phase de transition, qui dure environ 2 jours, on atteint un autre niveau, où on est réellement heureux de retrouver un rythme de vie un peu plus humain. Et c'est à ce moment-là que la patience peut entrer en jeu. Carl Honoré est un spécialiste du « slow movement » ou « mouvement doux », un mode de pensée qui invite les gens à ralentir dans un monde où tout va trop vite. Depuis des années, le journaliste canadien basé à Londres écrit des livres et donne des conférences interactives TED Talks sur le sujet. Dans la vie quotidienne, la plupart des gens courent entre le travail, les enfants, les tâches domestiques, etc. La vie, quoi. Les gens manquent de sommeil et sont stressés. Deux facteurs qui contribuent largement à l'impatience, résume-t-il. Mais en vacances, avec un horaire plus souple, le stress diminue et la patience augmente inversement, du moins en principe. Cela fonctionne seulement si les gens abordent les vacances avec la bonne approche, avec le bon état d'esprit. Précise l'auteur à succès qui s'est notamment intéressé au slow tourism ou ralentourisme. Plusieurs personnes ne le font pas. Elles arrivent en vacances avec la même approche d'efficacité et de performance qu'elles ont au travail. Elles s'évadent d'une vie surchargée en planifiant des vacances surchargées. Elles n'arrivent pas à profiter de leurs vacances. Elles sont quasiment aussi impatientes en vacances que dans la vie de tous les jours parce qu'elles essaient de faire trop de choses en même temps. Performer, même en vacances. Pour certains, c'est juste une question d'habitude, constate-t-il. Le FOMO, pour Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose, contraint aussi plusieurs individus à courir, même en vacances. Pour d'autres, c'est un besoin de performance, même en vacances, pour répondre aux standards de productivité et épater la galerie sur les réseaux sociaux ou au retour au bureau. À la fin d'une conférence, une dame m'a avoué récemment que, à chaque fois qu'elle partait en vacances, elle inventait 2 ou 3 trucs qu'elle n'avait pas réellement fait, juste que pour ses vacances soient plus impressionnantes, raconte M. Honoré avec un rire de dépit. Beaucoup de gens veulent ralentir, mais sont gênés de le dire. C'est comme un petit secret gênant. Ils ont peur que les gens pensent qu'ils sont paresseux ou ennuyants. Le fait d'être constamment occupé est aussi une forme de déni, une façon d'éviter des questions plus profondes sur leur place dans l'univers ou sur l'orientation donnée à leur vie, des questions essentielles qui ont perdu leur valeur dans une société où on privilégie l'action sur la réflexion, se désole le conférencier. Les vacances, c'est justement le moment idéal pour s'arrêter, ralentir, réapprendre l'art de la réflexion, affirme-t-il. Pour une fois, on contrôle l'horaire. On ne peut pas blâmer son patron, ça nous appartient. C'est à nous de dire « je vais prendre une approche différente pendant ces vacances. Au lieu de faire 5 choses par jour, je vais en faire juste 2 ». Conseil pour des vacances zen. C'est d'ailleurs le premier conseil qu'il offre à ceux qui souhaitent profiter des vacances pour cultiver leur patience. Faites-en moins, lance-t-il d'emblée. Si vous avez plusieurs activités prévues chaque jour, supprimez-en 2. Allez à l'essentiel, demandez-vous. Qu'est-ce qui fait que vos vacances seront réellement riches et mémorables et laissez tout le reste aller. En effet, même en vacances, il y aura des moments qui vont tester votre patience. Il y aura des files à l'aéroport pour rentrer au musée, faire un tour de manège ou avoir une table dans un restaurant en vue. Mais si vous avez le temps et que vous n'êtes pas stressé à l'idée d'être en retard pour l'activité suivante prévue, tout devient soudainement plus facile, explique-t-il. Soudainement, vous êtes en mesure d'apprécier les beaux paysages, d'entamer la discussion avec des gens qui vous entourent ou de vous laisser aller un moment de rêverie. Si l'attente devient insupportable, il suggère de respirer profondément, de faire de la méditation ou d'écouter de la musique douce. Autant de trucs qui peuvent être mis en pratique dans la vie quotidienne. Dans un deuxième temps, il conseille fortement aux gens de délaisser le plus possible leur cellulaire pendant les vacances, de désactiver les alertes, de le mettre en mode noir et blanc, ça le rend beaucoup moins intéressant, et d'oublier les réseaux sociaux. Bref, de profiter du moment plutôt que de penser à ce que les autres font pendant votre absence et ce que vous allez pouvoir raconter à votre retour. Enfin, il recommande de dormir tout simplement. Assurez-vous de garder une place importante pour le sommeil pendant vos vacances. Il n'y aura jamais de meilleur temps. Faites la siesta, vous serez plus détendu et patient. C'était « Cultiver sa patience en vacances », un texte de Jessica Nadeau, paru le 14 août 2025 dans Le Devoir.
De Londres à Paris, une climatologue québécoise éclaire les décideurs européens. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 août 2025 dans Le Devoir. Corinne Le Quéré n'a aucun doute. L'humanité dispose déjà de tout ce qu'il faut pour réduire rapidement ses émissions de carbone. Depuis près d'une décennie, cette climatologue québécoise, une sommité dans son domaine, citée plus de 80 000 fois par ses pairs, orbite autour des hauts cercles du pouvoir, en France et au Royaume-Uni, pour accélérer l'action climatique. J'essaie d'aider les gouvernements à prendre les mesures les plus ambitieuses possibles, mais toujours dans le cadre d'un plan à long terme, explique Mme Le Quéré, 59 ans, de passage au Québec ces jours-ci pour voir sa famille et recevoir un doctorat honorifique de l'Université de Montréal. Attablée dans un café de la métropole, celle qui habite en Europe depuis 1996 ne mâche pas ses mots à l'endroit du Canada. Le pays hésite trop dans la transition énergétique. Il va manquer le coche pendant que la Chine consacre 10 % de son économie aux énergies renouvelables. Le Québec fait un peu mieux, mais les progrès demeurent trop lents par rapport à des pays européens comparables, surtout dans le contexte où, depuis 2 ans, les technologies de l'électrification connaissent un essor phénoménal, souligne l'influente chercheuse. Il faut dire que Mme Le Quéré est aux premières loges des gouvernements les plus dynamiques sur la scène climatique mondiale. En 2018, le président français Emmanuel Macron l'a nommée à la tête du Haut Conseil pour le climat, un organisme indépendant chargé d'évaluer l'action publique française en matière climatique. Elle l'a présidé jusqu'en 2024. Durant ces 5 années, ce comité, c'est vraiment ce qui a dominé ma pensée, explique-t-elle. Des résultats encourageants ont été obtenus. En 2023, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont chuté de 5 %. La climatologue n'adhère pas au cynisme ambiant à l'égard de la classe politique. La plupart des décideurs politiques que j'ai rencontrés veulent bien faire, dit-elle dans un français bien québécois qui lui a déjà valu des sourires lors d'une présentation devant M. Macron et ses ministres. Pour que ses conseils résonnent aux oreilles des décideurs, elle sait comment s'y prendre. Les ministres ont besoin des fins détails. Quelle est la disponibilité des technologies? Combien ça va coûter? Qui va payer? Énumère-t-elle. De l'autre côté de la Manche, après avoir conseillé le premier ministre David Cameron, Mme Le Quéré est devenue membre, en 2016, du Climate Change Committee, CCC, qui conseille le gouvernement britannique en matière d'action climatique. Là-bas, les émissions de gaz à effet de serre ont fondu de moitié depuis 1990. L'économie de demain au Royaume-Uni, c'est une économie décarbonée et électrique, indique avec enthousiasme la citoyenne britannique, qui habite Norfolk, où elle est professeure à l'Université d'East Anglia. Le CCC, la référence mondiale pour ce type de comité, est doté d'une 40aine d'analystes. Peu importe le parti au pouvoir, Downing Street a toujours adopté les plafonds d'émissions recommandés par le comité. Le carbone et l'océan. Corinne Le Quéré a grandi à Gatineau, auprès d'un père originaire de France et d'une mère québécoise. Sa famille, indépendantiste, passait beaucoup de temps en nature, à profiter des lacs et de la forêt. Jeune adulte, Corinne envisageait de devenir enseignante et d'éducation physique, mais ratant la date d'inscription d'une journée, elle s'est plutôt retrouvée en physique à l'Université de Montréal, ce qui allait donner son envol à sa formation scientifique. La physique, c'est le pilier de ma manière de penser, juge-t-elle aujourd'hui, reconnaissante envers son alma mater. Ayant attrapé la piqûre de la science, elle a ensuite poursuivi des études en sciences atmosphériques et océaniques à l'Université McGill, achevée en 1992. Puis, elle a travaillé comme assistante de recherche à l'Université de Princeton, auprès de Jorge Sarmiento, un géant de l'océanographie. Madame Le Quéré a développé dans son laboratoire un modèle servant à calculer l'absorption de carbone par les océans. Elle a ensuite décroché son doctorat à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris en 1999. Au début des années 2000, elle a découvert que l'océan Austral, qui ceinture l'Antarctique, perdait de son potentiel à absorber du carbone de l'air à cause des changements climatiques. Les vents, fortifiés par le réchauffement, accélèrent la remontée des eaux profondes riches en carbone, ce qui rend la surface moins apte à avaler le CO2 atmosphérique. Un cercle vicieux. Heureusement, selon les données les plus récentes, le rétablissement de la couche d'ozone renverse une partie de cet inquiétant phénomène. En entrevue, Mme Le Quéré se montre sérieuse, mais chaleureuse. Elle n'est pas pessimiste. Elle constate que les pires scénarios climatiques, les 5 degrés Celsius de réchauffement envisagés au début de sa carrière, sont désormais improbables. Une vingtaine de pays industrialisés diminuent leurs émissions, tout en ayant une économie vigoureuse. Il demeure que la planète n'est pas à l'abri de certains points de basculement, qui pourraient entraîner une réorganisation abrupte et irréversible d'un aspect du climat mondial. « Ça m'inquiète beaucoup, avoue-t-elle. Une transition de la forêt boréale vers un régime de feu très rapide est l'un des basculements redoutés. Pendant que l'humanité s'efforce de profondément réduire ses émissions, il est aussi absolument essentiel qu'elle commence à capter et à séquestrer du carbone atmosphérique, croit Mme Le Quéré. La reforestation peut jouer un rôle, mais ne pourra jamais être une solution universelle. Les arbres plantés peuvent brûler et ils occupent de l'espace au détriment de l'agriculture. D'autres options, qui reposent sur le stockage du CO2 atmosphérique dans le sous-sol et dans l'océan, sont aujourd'hui en plein développement. Dans quelques décennies, elles pourraient compenser les émissions de l'aviation et de l'agriculture. Difficile à faire descendre à zéro, indique la scientifique. Certains militants écologistes, technophobes, grincent des dents en entendant de telles propositions. Madame Le Quéré, qui se considère comme très pragmatique, cherche l'équilibre. Elle soutient tout autant la sobriété énergétique que les véhicules électriques. « Il y a beaucoup de militantisme pour le climat qui n'est pas toujours utile », soutient-elle. « Ces gens ont de bonnes idées, mais ce ne sont pas des idées qu'on peut mettre en œuvre. » Elle croit que le rôle d'un gouvernement, c'est de mobiliser les acteurs pour que les investissements se fassent au bon moment dans l'industrie. Au Canada, on ne pourrait pas dire demain qu'on arrête d'exploiter le pétrole. Ça ne passerait pas. L'économie en est trop dépendante. Le pays doit planifier à long terme l'évolution de son économie, en s'assurant que les gens concernés par les transformations ont un avenir. La sortie du pétrole ne peut être improvisée, elle doit être planifiée. Et tant mieux si l'industrie pétrogazière essaie de réduire ses émissions en cours de chemin. Mais il faut arrêter de parler de pétrole vert, prévient-elle. Vers la carboneutralité familiale. Tout le poids de l'action climatique ne repose pas sur les épaules de l'individu. Un système entier est en cause, mais l'individu ne peut pas non plus se défiler devant ses responsabilités, selon Mme Le Quéré. À un moment donné, il faut y faire face. La climatologue franco-canado-britannique trouve qu'il y a trop de culpabilité dans l'air, mais aussi trop d'échappatoires. Personnellement, elle veut que ses bottines suivent ses babines. Pour ce faire, la scientifique se consacre à un projet commun, rendre sa famille carboneutre. Déjà, elle se rend au travail à vélo, conduit un véhicule électrique et ne mange presque pas de viande. Après avoir installé des panneaux solaires sur son toit, elle projette de se procurer une thermopompe électrique pour chauffer sa résidence. Cela dit, le poste le plus important de son bilan carbone est sans conteste l'avion qu'elle prend pour aller voir sa famille au Québec et sa fille à New York. C'est mon gros point faible, admet-elle. Pour équilibrer son bilan, elle a acheté en 2024 une terre agricole abandonnée non loin de chez elle, à Norfolk, qu'elle est en train de transformer en forêt. Sur 3 hectares, elle a planté 1 000 arbres, érables, chênes, ormes, cerisiers, pommiers, poiriers. Je dois dire que c'est un plus gros projet que ce que j'imaginais. Mais c'est le fun, c'est très, très, très valorisant de planter des arbres. Maintenant, on attend qu'ils poussent. C'était de Londres à Paris. Une climatologue québécoise éclaire les décideurs européens. Un texte d'Alexis Riopel, paru le 24 août 2025 dans Le Devoir.
Dossier des rentes de retraite, témoignage. Victime de la pénalité, Régent Bergeron et sa femme se sont battus au tribunal pour obtenir réparation. Un texte d'Aline Vacon-Pernol, paru dans la revue Paraquad dans le numéro 164 à l'automne 2024. Régent Bergeron est une des cinq personnes qui a porté plainte au tribunal administratif du Québec en 2018 pour obtenir l'abolition de la pénalité discriminatoire au régime des rentes du Québec et la compensation de toutes les années durant lesquelles il a été pénalisé sur sa rente de retraite. Avec sa femme, Francine Arguin, ils ont bataillé en justice pendant près de 6 ans. Mémo Québec les a aidés en finançant les frais de l'avocat qui leur a permis de porter cette action en justice. Aujourd'hui, pour eux, la victoire n'est pas totale. Ils demandent toujours la rétroaction. Régent Bergeron et Francine Arguin sont soudés. Ensemble, ils ont franchi bien des épreuves qu'ils n'auraient certainement pas imaginées si grandes. Ils n'avaient certainement pas imaginé à quel point ils auraient à batailler, presque jusqu'à l'épuisement, jusqu'à venir ébranler les défenses du roc. Francine, à 58 ans, Régent, grutier, est frappé par un infarctus. En octobre 2011, il se fait opérer d'un quadruple pontage, une opération à cœur ouvert. Régent ne sera plus tout à fait le même après cette opération et cette tragédie qui les touche, lui et sa femme Francine. D'autant qu'il en sort avec des séquelles. Blessé au pied, il ne peut plus chausser de chaussures de sécurité et ne peut plus non plus monter dans une grue, car il souffre de problèmes cardiovasculaires. Les deux premières années, Régent touche son assurance chômage, puis l'assurance salaire, mais à 60 ans et 3 mois, tout est terminé. Comme Régent ne peut plus exercer son métier, en avril 2013, il est déclaré invalide par son médecin. Quand il complète les papiers, la rente d'invalidité lui est accordée presque automatiquement. Le cadeau des 65 ans. Ce n'est qu'aux 65 ans de Régent, en avril 2018, que le couple reçoit un cadeau, comme il le dit. Il s'aperçoit que Régent n'est désormais plus invalide, mais juste un petit vieux. Il touche désormais une rente régulière, mais une rente pénalisée, car il a touché la rente d'invalidité. Dans la lettre de retraite Québec, apparaissait une baisse de 500 $ par mois, de 1210,37 à 728,94. C'était quelque chose, commente Francine. Nous avons alors contesté à tous les paliers de la régie des rentes. On n'était pas d'accord, mais nous n'avons pas gagné. Il fallait faire appel à un plus haut niveau. Nous ne savions pas comment nous y prendre. J'ai même fait des démarches pour rencontrer notre député de Chaudière-Appalaches. Je pensais qu'il était sensible et qu'il nous aurait aidés. Mais je n'ai jamais reçu de réponse. C'est à ce moment-là que nous avons contacté Mémo Québec. C'était Sarah Limoges au début, suivie par Annabelle Grenon-Fortin, explique Francine qui raconte l'histoire au nom du couple. Régent et Francine sont très reconnaissants de l'excellent service rendu par l'organisme durant toutes ces années. Heureusement qu'il y a eu ces gens-là, parce qu'émotivement, ce n'était pas facile de passer à travers tout ce qu'on a vécu. C'est un organisme merveilleux et très aidant. Sans Mémo Québec, on n'aurait pas pu continuer. On a été soutenus et guidés dans tout ça, se réjouit la conjointe de Régent. le tribunal leur donne raison. Mémo-Québec a soutenu Régent financièrement depuis le premier jour de sa bataille judiciaire. Francine se souvient de la joie que le couple a ressentie lors de l'annonce du jugement favorable le 28 juillet 2023 pour lui et pour les quatre autres dossiers portés devant le tribunal. Je me pinçais, je n'y croyais pas. Nous avions gagné après tant d'années d'efforts. Mais la joie a duré 30 jours. Ensuite, le gouvernement a fait appel. Je me suis demandé si on allait voir la fin de ce mauvais roman-là, se désole Francine. Elle est indignée par l'attitude de l'État. En plus de l'incapacité de Régent, le gouvernement nous a tapé dessus. Ce sont des gens démunis et affaiblis qui touchent la rente d'invalidité et on leur afflige une double pénitence. Financièrement, en plus des dépenses de la vie courante, Régent doit aussi payer ses médicaments chaque mois. Lors du jour fatidique de son 65e anniversaire, son fonds de pension a déjà été diminué de 75% après avoir été retiré de façon accélérée. Francine, de son côté, a pris sa retraite anticipée en juin 2012 à cause de la maladie de Régent. Un combat judiciaire très éprouvant. Ce combat judiciaire a été très difficile et éprouvant. Le couple a connu énormément de découragement. Régent était affaibli par la maladie et par les problèmes financiers. Quand on recevait des réponses négatives, j'en pleurais. Je n'étais plus capable, se souvient tristement Francine. Régent, lui, n'aurait jamais pu continuer sans sa conjointe, tellement la situation affectait son moral. Une chance que Francine était là. Moi, j'aurais tout lâché. Je lui disais « Fais-le, je ne suis plus capable », répète-t-il dans un souffle. Pour elle, il s'agissait d'une question de principe, de justice. Je n'étais plus capable de lâcher. Je me disais « C'est discriminatoire, c'est une injustice, ce n'est pas correct. On ne peut pas faire ça à des gens déjà invalides », se révolte-t-elle. Francine se réjouit de l'annonce de l'abolition de la pénalité. C'est une victoire. Au moins, l'avenir est plus juste qu'il n'était. Tant mieux si ça aide les autres aussi. Nous le faisons pour nous et pour les autres. Et qui n'est pas fini. Pour Régent et Francine, la bataille n'est cependant pas terminée. Ils ne comprennent pas ce que le gouvernement attend pour appliquer la décision du tribunal. Cet acharnement contre les invalides de la part du gouvernement est aberrant et honteux. Il a l'opportunité de se servir de cette judicieuse décision rendue par son organisme, le Tribunal administratif du Québec, et de redorer son image en corrigeant cette injustice faite par le passé aux personnes âgées déjà affaiblies par la maladie. J'espère de tout cœur qu'il va changer d'avis. Pour le moment, nous sommes encore dans l'impasse, s'attriste Francine. Le couple demande une rétroaction des sommes dont il a été privé à cause de la pénalité. 2013. Mémo-Québec a désormais une idée assez claire du dossier, un dossier qui touche toutes les personnes recevant une rente d'invalidité, pas seulement les personnes en situation de handicap. Considérant l'impact du dossier, le comité de travail décide de chercher l'appui d'autres organisations pour le soutenir. Mais trouver des alliés s'avère difficile et les autres organismes hésitent à s'investir. 2014. Les membres du comité de travail de Mémo-Québec demandent à deux organismes responsables de protéger le public, le Protecteur du citoyen et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, de se prononcer sur le dossier. Mais les deux instances se renvoient la balle. La Commission considère qu'il s'agit d'un dossier de nature administrative relevant du Protecteur du citoyen, et ce dernier, pour sa part, considère qu'il s'agit d'un dossier de discrimination relevant de la Commission. Le comité de travail de Mémo-Québec parvient, en décembre, à rédiger un premier mémoire. Ce document très fouillé permet de démontrer fiscalement les impacts de la mesure sur les individus et construit un argumentaire venant démonter les arguments de la Régie des rentes du Québec. Il vise à alerter les diverses instances de l'existence de cette pénalité et des conséquences qu'il en coûte aux personnes concernées. Mémoire. Régime des rentes du Québec et personnes handicapées. Quand une retraite rime avec discrimination. Déposé dans le cadre de la consultation publique « Consolider le régime de rente du Québec pour renforcer l'équité intergénérationnelle ». Moelle épinière et motricité Québec, réinventer l'autonomie. Le mémoire publié par Mémo Québec. Des représentations sont menées auprès de l'Office des personnes handicapées du Québec pour qu'il appuie le dossier et fasse des recommandations auprès du gouvernement. L'organisme rencontre également des députés de l'opposition et demande au gouvernement de corriger la situation. Cependant, le gouvernement de l'époque formé par le Parti québécois à l'origine de la mise en place de cette pénalité ne manifeste aucune volonté d'écoute. Lors de chaque représentation faite auprès d'instances gouvernementales, l'équipe de Mémo Québec se fait dire qu'elle doit attendre la consultation publique du RRQ afin de faire valoir la position de l'organisme. Cette consultation est une procédure qui a lieu tous les 6 ans pour recueillir l'avis de la population sur les ajustements à apporter au régime. Elle doit normalement se tenir en 2015. Les membres du comité font ensuite une seconde tentative et relancent le protecteur du citoyen et la CDPDJ. Ils reçoivent une réponse sans équivoque du protecteur du citoyen qui stipule clairement qu'il n'y a pas eu de faute ou de manquement dans le processus d'adoption législative de la pénalité et que par conséquent, il n'a pas la compétence pour intervenir. La grande consultation publique, qui devait initialement se tenir cette année, est repoussée à plusieurs reprises. Pendant ce temps, Mémo Québec continue d'alerter les médias ainsi que le gouvernement et continue de multiplier les contacts pour trouver des alliés. C'était « Victime de la pénalité, Régent Bergeron et sa femme se sont battus au tribunal pour obtenir réparation », un texte d'Aline Van Compernol, paru dans la revue Paraquad dans le numéro 164 à l'automne 2024.